aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Riche en anticorps, digeste, nourrissant, parfaitement adapté à l'organisme, nous allons parler aujourd'hui du lait maternel et de l'allaitement dans Priorité Santé. Boisson nourrissante, le lait maternel évolue au fil des jours du nouveau-né. Il se transforme même au cours de l'ATT, apportant tour à tour les nutriments variés, nécessaires, minéraux, vitamines adaptées. Mais le lait maternel, ce n'est pas qu'une affaire d'alimentation ou de digestion. Il est considéré par certains comme un puissant facteur d'attachement après la naissance. C'est aussi, dans de nombreuses régions du monde, un précieux atout pour le développement du nouveau-né. Nourriture sûre, protectrice, disponible et gratuite. L'Organisation mondiale de la santé recommande même l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie. Mais ce geste naturel, c'est aussi un choix de femme, parfois un sujet de débat, un acte hautement symbolique qui suscite des réactions contrastées, un choix qui peut être freiné par des blocages culturels ou le manque de confiance, interrompu aussi bien sûr par la reprise du travail. Un choix de femme et de mère que la société ne se prive pas de juger. L'allaitement maternel dans Priorité Santé. Aujourd'hui, bien sûr, nous attendons vos messages sur notre page Facebook, vos questions à notre numéro, le 33 84 22 75 75. Et pour répondre à ces questions, avec nous en studio aujourd'hui, Agnès Guyonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme spécialisée en allaitement maternel. Vous travaillez au Lactarium Régional d'Île-de-France de l'hôpital Necker à Paris. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne Karima Peroni, qui a co-signé l'ouvrage « Mon allaitement comme je le veux » avec Christelle Niki, livre publié chez Le Duc Édition Pratique. Et puis, nous serons en ligne de Cotonou avec Laurence Montero, présidente de la Association des sages-femmes du Bénin. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Explication, conseil, problème. Et cet aspect de débat autour de l'allaitement maternel qui a forcément une dimension locale, régionale, perception associée à l'entourage, à la culture, au contexte. Est-ce qu'on peut dire d'emblée, Agnès Guyonnet, que le fait d'allaiter, si ça pose problème ou non, c'est perçu de façon complètement différente ici et ailleurs dans d'autres régions du monde ? C'est totalement attaché à la société dans laquelle vivent les femmes.
Tout à fait. C'est-à-dire que la perception du maternage en général et puis de l'alimentation du nouveau-né va varier en fonction des coutumes, des us, de la société qui change pour diverses raisons. Donc parler d'allaitement en Europe, parler d'allaitement en Afrique, parler d'allaitement en Inde ou parler d'allaitement aux États-Unis ne va pas forcément impacter les mêmes écueils. Alors que la pratique de l'allaitement devrait être complètement universelle. Les besoins de l'enfant, en fait, eux, sont universels et n'ont pas changé depuis la nuit des temps. C'est vraiment la réponse de sa mère et de sa famille et de la société face à cet enfant qui change au fur et à mesure du temps.
Alors justement, besoin universel, c'est ce que met en avant l'Organisation mondiale de la santé lorsqu'elle recommande 6 mois d'allaitement maternel exclusif. Ça va non seulement réduire la mortalité infantile, mais aussi se ressentir sur la santé, y compris à l'âge adulte. Alors avant de parler du lien, c'est essentiel, on va parler du produit. Agnès Guyonnet, qu'est-ce qu'apporte ce fameux lait maternel, ce nectar de vie ?
Alors... La première chose, c'est effectivement l'immunité de l'enfant et tout le monde parle des anticorps dans le lait maternel et notamment dans le colostrum qui est parfois décrié selon justement certaines cultures. Mais maintenant, on sait aussi que cette immunité va être prolongée tout au long de la vie par la constitution en fait d'un microbiote intestinal qui va être complètement adéquat et en équilibre avec la flore familiale et la flore de sa mère.
Je vous reprends sur le terme de colostrum parce que peut-être que certains auditeurs ne savent pas de quoi il ressort exactement. C'est donc ce tout premier liquide qui va sortir du sein.
C'est donc ce tout premier liquide qui est là dès la fin de la grossesse et jusqu'à la transformation en lait, donc ce qu'on appelle la fameuse montée laiteuse. Et donc ce premier lait, en fait, n'a pas de propriété purement alimentaire, mais a vraiment une propriété hydratante et immunitaire pour le tout nouveau-né.
Alors, à l'hôpital, vous avez une longue pratique dans ce secteur hospitalier en tant que sage-femme. Qui décide? Qu'est-ce que disent les femmes une fois qu'elles ont accouché? Ou est-ce que ça se décide avant l'accouchement?
Ah, ça serait bien que ça se décide bien en amont, hein, et qu'il y ait vraiment une réflexion familiale et de cette mère sur la projection, en fait, de l'alimentation, de l'allaitement avec ce tout jeune bébé.
Hein. Ça veut dire que certaines arrivent le jour J, les contractions sont là, elles n'ont pas encore pris leur décision quant au mode d'alimentation du bébé à naître?
Ça arrive souvent, ou alors c'est peut-être un mode aussi de protection, c'est-à-dire je vais essayer, on verra bien. Mais c'est peut-être un mode de protection en se disant...
Il y a aussi une forme de superstition de jamais anticiper, tant qu'il n'est pas là, on se projette pas parce qu'on ne sait jamais.
Peut-être aussi, tout à fait. Mais il y a des fois, on arrive quand même à se projeter pour aller acheter...
La layette
et plein d'autres choses dans les magasins, donc... Peut-être qu'il faut apprendre à se projeter sur des choses peut-être un peu plus essentielles.
Alors, c'est un acte ancestral, on dit souvent naturel. Et malgré tout, beaucoup de mamans, quand elles allaitent, se posent cette fameuse question. Est-ce que, Agnès Guyonnet, mon bébé a assez mangé?
Eh ben, le problème, c'est que ce bébé peut manger à sa faim si on le laisse faire ce dont il a besoin. C'est-à-dire que si on réglemente beaucoup si on dirige le rythme des tétés, le temps des tétés, et que on veut appliquer à l'allaitement des principes qui sont faits avec une alimentation plus artificielle et au biberon, oui, le bébé risque effectivement de manquer de nutriments. Donc c'est vraiment le fait qu'il y ait un équilibre entre la demande du bébé et l'allaitement et la mise en place de la lactation de sa mère qui fait qu'on a de fortes chances que ce bébé ait tous les nutriments dont il a besoin.
Alors il y a un moment qui peut susciter des craintes, surtout après l'événement énorme qu'est cet accouchement, Agnès Guyonnet, c'est la mise au sein. Aujourd'hui en milieu hospitalier, comment ça se passe? Parce que on sait aussi que pour beaucoup de nos auditrices, ça va aussi se passer à la maison avec les conseils de l'entourage, des femmes de la famille. Quels bons conseils on peut donner justement pour une bonne mise au sein?
Eh ben, le bon conseil, c'est de laisser ce bébé faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'après la naissance, en fait, on va recommander beaucoup de peau à peau. C'est-à-dire que l'enfant juste né va être mis nu contre le corps de sa mère nue. Et donc, il va bénéficier du coup, en fait, de tous ces stimuli sensoriels qui vont l'amener à prendre le sein de façon quasi automatique. En fait, en centre hospitalier, le fait de médicaliser les naissances, parfois interagit avec ce réflexe-là, et à la limite, c'est plus difficile de mettre le bébé au sein alors qu'un accouchement a été médicalisé pour X raisons que lorsque la naissance a été naturelle et que ce bébé bénéficie de tous ces stimuli sensoriels.
Y compris même en cas de naissance naturelle, on a vu pendant une longue période le fameux réflexe du bain, on allait même parfois aspirer le bébé, enfin vraiment qu'il soit nickel, tout propre, et il n'y avait pas ce geste de mise au sein illico après l'expulsion,
voilà,
après la délivrance.
Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances de la naissance, si la maman et le bébé le permettent, c'est-à-dire si leur état de santé est correct, l'idéal est de laisser cet enfant et cette maman en contact étroit pour que justement la première mise au sein se fasse au bon timing, en fait, entre la mère et l'enfant.
Alors, on va prendre en ligne les questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Fameuse question, hein. À chaque fois qu'on parle d'allaitement, Agnès Guyonnet, allaitement à la demande ou non? Qui décide? Est-ce que c'est la montre ou est-ce que c'est bébé? Moi, j'ai ma petite idée, mais je vais vous laisser répondre.
qui décide, c'est de toute façon la mère et la société qui va décider. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la mère et la société soient convaincues du fait que ce bébé a, c'est exactement ce qu'il lui faut, et donc respecter la demande de l'enfant. Et ça repose quand même sur quelque chose d'essentiel, qui est qu'il y a quand même un équilibrage entre la lactation de la maman et les besoins de l'enfant, lié à un tas de phénomènes, c'est-à-dire l'appétit de l'enfant, mais aussi la capacité de stockage, l'éjection du lait chez la maman, qui va pas être le même chez un tel ou un tel. Et donc, pour qu'un même bébé prenne effectivement sa quantité alimentaire, certains enfants devront téter 6 ou 7 fois, et d'autres devront téter peut-être le double, et ça, personne ne peut le prédire.
Alors, question très pratique, des conseils aussi qui seront tout aussi pratiques de votre part. On va tout de suite donc prendre en ligne nos auditrices et nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Première auditrice en ligne du Cameroun de Yaoundé, c'est Doris qui est avec nous. Bonjour Doris.
Bonjour madame.
On vous écoute. Bonjour. On vous écoute.
Oui, ma question est celle-ci. J'ai fait un bébé il y a de cela environ 11 ans déjà. Mm-hmm. Et j'ai pas eu de problème avec l'allaitement. Et après, mon lait n'a jamais cessé de couler.
Donc aujourd'hui, 11 ans après, votre bébé donc est devenu un petit garçon ou une petite fille, il va à l'école et vous avez toujours, on va dire, du lait qui coule de vos seins, c'est ça?
Oui, et je veux savoir si c'est normal ou alors je dois m'inquiéter.
Question de Doris, Agnès Guyonnet, mais vous dites le lait coule, il coule, on va dire, dans quelle quantité, quel volume? Il y aurait de quoi remplir un biberon, ou ce sont des petites gouttes de lait qui perlent, par exemple, au moment où vous faites votre toilette?
Ça coule normalement comme si j'allaitais. Bon, il suffit que je touche ou je presse un peu, ça coule comme...
Comme s'il y avait une lactation, comme si le bébé était petit. Et vous avez consulté, vous avez vu une gynécologue, un médecin pour lui en parler?
Non, pas encore.
10 ans après, vous n'avez vu personne, vous n'en avez parlé à personne?
Non.
Alors, question de Doris, Agnès Guyonnet. Peut-être que ce qu'on peut se poser comme question, s'il y a eu des stimulations, si justement le lait vient et qu'elle continue, on va dire, de stimuler cette lactation, peut-être que le processus ne peut pas s'arrêter, mais 10 ans après, ça paraît très très long.
Alors là, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut recommander à Doris, c'est qu'effectivement, sans pour autant envisager des choses très graves, mm-hmm, il faut quand même un
avis médical
et peut-être un bilan de santé. La lactation... Pendant que le bébé tête effectivement suit, c'est ce qu'on a déjà dit, la demande de l'enfant. Après, effectivement, il peut y avoir des mécanismes endocriniens, c'est-à-dire qui font jouer les hormones de la maman, qui maintiennent en fait une glande mammaire productive. Mais à ce moment-là, effectivement, il faut regarder ce qui se passe.
Voilà, Doris. Donc, le meilleur conseil à vous donner aujourd'hui, c'est d'aller voir un médecin et puis lui en parler, lui poser des questions et voir avec ce soignant vers quelle solution il pourra vous orienter pour que cette situation se règle tranquillement. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée au Cameroun, à Yaoundé. On va partir pour le Gabon, pour Libreville, où l'on retrouve Audi. Bonjour Audi.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'ai un bébé de 15 mois. Mm-hmm. Lorsqu'il avait 12 mois, j'ai arrêté de lui donner le sein. Mm-hmm. Mais pendant un mois. Un mois après, il a subitement eu envie encore de... Donc à chaque fois il m'embêtait et puis bon, j'étais obligée de lui donner un peu pour calmer. Mmh. Mais il a repris goût. À chaque fois il m'embête le sein, donc je lui donne. Et depuis 2 jours, j'ai essayé de mettre du sparadrap au bout de mes tétons pour qu'il essaie un peu d'oublier. Mais bon, il embête un peu, il oublie. Je voulais savoir s'il n'y a pas de problème. Le fait de lui avoir redonné le sein un mois après avoir arrêter, en fait.
Agnès Guyonnet, cette maman sous la pression de ce bébé qui est apparemment très insistant pour ne pas lâcher son sein. Donc, est-ce qu'il y a un risque éventuel à avoir arrêté, avoir repris?
Il n'y a aucun risque d'avoir arrêté et d'avoir repris. Après, quand on parle d'allaitement à la demande, on parle vraiment de l'allaitement des premiers mois avec un tout jeune bébé. C'est sûr que quand l'enfant grandit, d'autres choses sont en jeu entre la relation de ce bébé avec son entourage. Et donc là, ce bébé, il arrive très bien à savoir et à se faire comprendre sur ce qu'il veut. Donc après, c'est comme dans la vie. Il y a des fois on cède, il y a des fois on ne cède pas. Mais c'est vraiment un lien entre la mère et l'enfant qui va se faire petit à petit. Alors l'OMS recommande un allaitement exclusif d'au moins 6 mois, mais après c'est et jusqu'à 2 ans de façon partielle si cela est envisageable. Donc ça veut dire que là à 15 mois, bon. Après, on est encore dans les clous et ce n'est pas dangereux.
Après, c'est votre décision, Audi, c'est de votre équilibre dans la relation avec votre bébé, de savoir si vous voulez lui dire non, si vous voulez céder après. Mais en tout cas, pas d'enjeu de santé, c'est bien ce que vous
pas
nous dites.
Pas d'enjeu de santé, tout à fait.
Voilà, Audi, savoir qui sera le plus fort de vous deux, tout en tendresse, mais qui aura le dernier mot. Ce sera certainement vous, de toute façon, au bout du compte. Très bonne journée à Libreville. On va partir pour le Congo, Congo-Brazza, où on va à Pointe-Noire retrouver Dieny. Dieny, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, je viens pour partager un témoignage parce que j'ai un bébé qui a 14 mois maintenant. Et j'avais des appréhensions sur l'allaitement avec la pression sociale et tout ça. Et j'étais obligée d'allaiter le bébé ou pas. Mais ça s'est fait naturellement quand elle est née. Et je lui ai tout de suite mis au sein et j'ai eu aucun problème. Mais par contre, j'avais une question. Parce que quand j'ai arrêté de l'allaiter à 5 mois et demi, j'ai remarqué qu'après, ma poitrine a diminué, mais de façon très, je sais pas comment dire.
Très visible.
C'est ma question.
Vous avez perdu, par exemple, plusieurs bonnets de soutien-gorge?
Oui, un
bonnet.
Oui. Donc, ma question était de savoir, est-ce que à un prochain bébé, est-ce que ma poitrine va encore diminuer? Parce que là, ça devient une question de féminité. Et voilà, c'est la préoccupation que j'ai.
Question de Dieny sur l'impact de l'allaitement sur le volume des seins. J'ai peut-être une petite question complémentaire, Dieny. Après cette naissance, vous avez perdu beaucoup de poids?
J'ai repris mon poids initial après un mois et demi à peu près.
Mais, mais vous avez constaté que la physionomie de vos seins avait changé?
Oui.
Ils ont changé d'aspect. Cette question, c'est aussi une préoccupation féminine tout à fait naturelle, Agnès Guyonnet, savoir si l'allaitement va changer la poitrine, l'amplifier, la diminuer, l'améliorer.
Complètement. Et en fait, ce que l'on sait de ces changements, on va dire, physiques, sont un petit peu difficiles à on va dire, on ne peut pas vraiment discerner l'impact, en fait, des changements physiques entre la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'allaitement qui va faire grossir les seins ou au contraire faire perdre du volume au sein. Il y a des femmes qui n'ont jamais allaité et qui vont avoir la même impression que cette auditrice.
C'est-à-dire qu'après un accouchement, elles vont nourrir leur bébé au biberon et pourtant leur sein changera quand même d'aspect.
Donc c'est vrai qu'on suspecte quand même l'impact de la prise de poids ou de volume, en fait, dès la grossesse. Et puis après, les grosses variations, c'est-à-dire une maman qui aurait vraiment une montée laiteuse qui fait augmenter le volume des seins de façon très brutale, c'est-à-dire les changements brutaux d'anatomie peuvent effectivement impacter l'aspect physique après l'allaitement. Mais tout est lié entre la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. C'est très difficile de connaître un petit peu la répartition des impacts de l'un ou de l'autre.
On va dire comme le corps change en général, les cuisses peuvent changer, le ventre peut changer, le relâchement du ventre ne sera pas attribué à l'allaitement. Alors que bien sûr, comme les seins sont impliqués dans l'acte d'allaiter, on se pose forcément des questions.
La relation de cause à effet paraît plus évidente, mais elle ne l'est pas tout à fait.
Voilà, Dieny, pour cette réponse. Moi, j'ai une petite question pour vous. Vous parliez au début de votre intervention de la pression sociale pour allaiter. Qui, justement, vous incitait ou ne vous incitait pas à allaiter dans votre entourage?
Déjà, c'est tout le monde qui incitait parce que il y a maman, il y a les sœurs, il y a les amis, il y a tout le monde, en fait. On n'arrive pas à concevoir qu'une maman puisse décider de ne pas allaiter son enfant. Et c'est très, très social et c'est très ancré ici.
Et vous, vous l'aviez fait sous pression ou vous l'aviez fait de bonne grâce?
Non, je l'ai fait naturellement. Je
naturellement.
Je me suis plus posé la question quand elle était là, alors je l'ai allaitée et ça s'est fait.
Et du coup, par rapport au changement de la physionomie de votre poitrine, si vous avez un autre bébé, vous avez davantage d'appréhension? C'est quelque chose qui vous tracasse?
Oui, ça me tracasse davantage. Après, je suis très fine, poitrine plate. Je me pose vraiment la question pour le deuxième bébé.
Bon, bah écoutez, on verra après. À la limite, je pense qu'on peut pas anticiper ce genre de choses, ni sur la prise de poids, ni sur le changement de physionomie. Ce sont des choses qui se font au fur et à mesure, au fil des jours et des semaines, quand le bébé est là. On vous souhaite une très très bonne journée à Pointe-Noire. Dieny, on va partir pour la République démocratique du Congo, où l'on retrouve dans la ville de Matadi Judith. Bonjour Judith.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
D'accord. Ben moi, je travaille à l'hôpital. Je suis pas infirmière, je suis technicienne de radiologie, mais je suis quand même au courant de ce qui se passe à l'hôpital. Mmh. Bon, c'est vrai que dans notre milieu, beaucoup de mamans se présentent à l'hôpital avec leur bébé, faisant une gastro-entérite, et elles disent que c'est la cause, c'est le lait maternel. Bon, elles disent que le lait n'est pas de bonne qualité, et du coup, elles décident d'arrêter d'allaiter leurs enfants et elles utilisent le lait artificiel. Bon, elle prétend que le lait n'est plus du tout concentré. Il a perdu sa couleur, il a perdu sa qualité, et puis c'est devenu nocif pour la santé de l'enfant. Alors, je voulais demander au docteur, est-ce possible que sans les médicaments, sans rien du tout, que le lait maternel devienne nocif pour l'enfant?
C'est une question très intéressante et très importante que vous nous posez, parce que on va le dire simplement, hein, et je pense que vous allez bien sûr le confirmer, Agnès Guyonnet, quand un enfant il a une diarrhée ou une gastro-entérite, ce n'est pas causé par le lait maternel.
Non, bien sûr que non. Et donc, de manière générale même, il faut lutter contre le fait de suspendre l'allaitement quand la mère est malade. Donc, on va parler des petits maux de tous les jours, hein, c'est-à-dire les rhumes, les gastro-entérites, les choses comme ça, puisque, en fait, même si vous ne savez pas exactement ce que vous avez, votre corps le sait et vous produisez des anticorps contre ce virus ou cette petite bactérie que vous avez contractée et qui va passer par l'allaitement maternel et protéger l'enfant allaité. Donc non, les gastro-entérites ne sont pas dues à l'allaitement maternel. Elles sont plus souvent dues à un défaut d'hygiène, en fait, dans l'alimentation de tous les jours. Et donc, passer cet enfant, en fait, à une alimentation artificielle avec la reconstitution du biberon, peut-être avec de l'eau qui n'est pas forcément bien conservée, a plus de risques d'entraîner des problèmes digestifs que de maintenir l'allaitement maternel.
Et en plus, quand il est en crise digestive, faire ce changement sans préavis, c'est très compliqué pour le bébé pour réagir justement à toute cette nouveauté.
Complètement. On a parlé aussi de sa colonisation digestive, de son microbiote qui fait que il est parfaitement équipé pour digérer très facilement le lait maternel. Et là, du coup, si on lui donne des nutriments beaucoup plus difficiles à digérer alors qu'il est déjà avec un problème digestif, ça ne lui rend pas vraiment service.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'une maman qui a un bébé qui souffre d'une diarrhée ou d'une gastro-entérite, elle continue d'allaiter et surtout, elle va consulter un médecin pour présenter son bébé, pour le soigner, tout simplement.
Exactement, exactement.
Donc ça, c'est le conseil à faire. Et si vous travaillez à l'hôpital, Judith, hein, ce que vous nous avez expliqué, c'est ce que vous pouvez dire aux mamans quand elles disent « j'ai arrêté d'allaiter », ben, il vaut mieux continuer d'allaiter, mais en tout cas, consulter le médecin pour montrer le bébé, pour que le bébé soit pris en charge.
D'accord, merci.
Très très bonne journée à vous.
Au revoir.
À Matadi. On a une question Facebook. Question Facebook, toute simple, de Prosper qui est au Sénégal. Dans quelle position une femme doit-elle s'installer pour allaiter son bébé?
Oh ben, je dirais à la limite dans la position qui lui est le plus confortable, hein, dans un premier temps. Après, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il faut essayer de ménager des positions qui permettent à l'enfant de faire aussi ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que pour que la mise au sein et que la tétée se passe bien, il faut que le bébé ait une bonne prise en bouche du sein, ce qui va conduire à un bon débit de lait et un confort de la tétée. Donc c'est vrai que moi j'ai coutume d'expliquer ça aux mamans, c'est-à-dire que on demande au bébé de prendre, enfin l'effort que l'on demande au bébé quand il prend le sein, c'est un petit peu le même que vous si vous prenez un gros sandwich. Donc il faut ouvrir la bouche et avoir une bonne mobilité du cou pour pouvoir justement vous permettre d'ouvrir bien la bouche. Donc les positions qui engoncent un petit peu le bébé dans ses épaules,
pas que le bébé soit tassé,
exactement, vont pas lui permettre d'avoir une prise du sein optimum. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit un petit peu en conseillant les mamans. Maintenant, quand on parle de position d'allaitement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a compris que en fonction de la position du bébé au sein, les territoires du sein qui vont être drainés, on va dire, de façon privilégiée, peuvent être différents. Donc, si le bébé, on va dire, vide tout le sein lors de la tétée, ça a assez peu d'impact. Mais si, effectivement, il y a des territoires qui restent un petit peu engorgé, entre guillemets, le fait de changer la position du bébé pour un peu mieux drainer cette zone-là va être effectivement un atout simple et qui permet d'avoir un peu plus de confort lors des tétés.
Alors voilà pour cet élément de réponse à cette question Facebook de Prosper. On va prendre une autre auditrice en ligne de RDC, de Lubumbashi, c'est Charlène. Bonjour Charlène.
Bonjour, merci Caroline.
Alors, vous avez une liste de questions, hein, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure quand on a préparé cette émission. Allez-y Charlène, on vous écoute.
Oui, j'ai trois questions. La première est de savoir, est-ce que le fait d'allaiter peut réduire les risques de cancer des seins? Et la deuxième, je veux savoir si le fait de nourrir, donc d'allaiter l'enfant exclusivement de 0 à 6 mois, sans rien lui donner, la bouillie ou de l'eau, et permettre à ce qu'à l'avenir, l'enfant ne tombe pas facilement malade et qu'il soit intelligent. Et la troisième, c'est une préoccupation que j'ai par rapport à une sœur à moi qui avait fait une fausse couche d'une grossesse de 5 mois, ou 4, je ne sais plus. Mais après, elle avait une poitrine un peu trop gonflée, comme si elle avait déjà allaité, qu'elle a arrêté. Je n'ai pas bien compris ce phénomène-là.
Alors, on va reprendre vos questions dans l'ordre, Charlène. D'abord, la corrélation, l'association, allaitement, risque du cancer du sein. D'ailleurs, Agnès Guyonnet, quand on va faire des mammographies de dépistage, la question est posée aux femmes, avez-vous ou non allaité vos enfants?
Tout à fait, parce que c'est clairement reconnu. La durée d'allaitement total dans la vie d'une femme a un impact sur la prévention, on va dire, du cancer du sein. Donc, et il faut bien comprendre que cette prévention est vraiment liée à la durée totale cumulée en fait de l'allaitement pour chaque femme.
Alors, deuxième question sur le pouvoir protecteur de l'allaitement. On y a déjà répondu tout à l'heure et ça reprend les indications de l'OMS. Allaiter 6 mois pour que l'enfant ait des risques limités d'infection. Je ne reprendrai pas votre expression, Charlène, ne tombera pas malade un enfant. Ça peut toujours tomber malade, ce n'est pas parce qu'il est allaité que c'est garanti. En tout cas, il sera peut-être mieux portant. C'est peut-être ça qui est dit derrière cette préoccupation de l'OMS, Agnès Guyonnet, que ça le protège.
Ça le protège et donc effectivement personne ne peut assurer à une maman que son enfant ne tombera pas malade. Par contre, les études qui ont été faites montrent que les enfants allaités, même s'ils sont hospitalisés, ont des durées d'hospitalisation plus courtes et des durées de convalescence aussi plus facilitées. Donc ce qui prouve bien qu'il y a quand même une immunité, une protection qui rentre en ligne de compte lorsqu'il y a un incident de santé.
Et cette dernière question, Charlène, sur le fait que sa sœur, malgré une fausse couche, avait les seins qui avaient gonflé comme si elle allait allaiter.
Alors, ça c'est tout à fait possible puisque de toute façon la maturation de la glande mammaire se fait dès le début de la grossesse et donc une fausse couche c'est aussi un accouchement et donc ça peut conduire à une montée laiteuse qui va se tarir spontanément. Se pose la question dans certains endroits en fonction du terme de la fausse couche. bouche du traitement ou non pour empêcher ces inconvénients-là.
Voilà, donc des choses qui se décident même donc avant l'accouchement au niveau de l'allaitement. Vous souhaite une excellente journée, Charlène, excellente journée à Lubumbashi. Agnès Guyonnet, on va tout à l'heure entrer en relation avec une de vos consoeurs sur le continent africain, à Cotonou, Laurence Montero. Est-ce que Laurence Montero est en ligne? Oui, elle est avec nous. Bonjour Laurence Montero.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association des sages-femmes du Bénin. Laurence Montero, est-ce que vous avez des indications sur justement les jeunes mamans dans votre pays, le Bénin, pour savoir si elles allaitent souvent, voire même s'il y a des différences au niveau des régions béninoises?
Bien sûr, je peux vous dire. D'abord, j'ai suivi tout ce que Madame Agnès Guyonnet a eu à dire. Et je suis totalement d'accord avec elle. Concernant votre question, les jeunes, effectivement, allaitent au Bénin. D'abord, vous savez, l'allaitement maternel, sans exagérer, je peux vous dire, c'est d'abord africain.
Alors c'est universel. Je pense qu'avant d'être africain, c'est humain.
Oui, voilà, c'est humain. L'allaitement maternel est humain. Parce que tout simplement, c'est direct, c'est économique et ça protège le bébé. Et ça ne donne pas beaucoup de maladies. En ce qui concerne les jeunes dans mon pays, elles sont prêtes pour l'allaitement. Elles reçoivent des conseils lorsqu'elles vont voir les sages-femmes. Mais le problème qui se pose, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur d'allaiter parce que si c'est des primipares qui ont leur enfant pour la première fois, ça fait mal, effectivement. Lorsqu'on veut allaiter pour la première fois, ça fait mal. Elles n'aiment pas allaiter. Deuxièmement, elles ont peur que leur poitrine ne prenne une déformation. Vous comprenez? Les seins peuvent tomber après l'allaitement.
C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec une auditrice.
Voilà, c'est ce qu'on leur dit. Elles allaitent au Bénin, mais le gros problème ici au Bénin, c'est que l'OMS a recommandé qu'il faut allaiter pendant les 6 premiers mois de vie. Sinon, c'est jusqu'à 2 ans. Et de manière exclusive, les 6 premiers mois de vie. Or, lorsque la femme accouche, nous avons 2 mois pour le congé de maternité. Et la littérature a montré que 72% de femmes ne respectent plus cet accouchement pendant les 6 premiers mois de vie, parce qu'après les 2 mois, les femmes doivent reprendre le travail. Ça, c'est pour les femmes travailleuses.
Alors, ce que vous soulignez, Laurence Montero, c'est que, en fait, la société n'est pas adaptée, justement, à ce rythme féminin, à ce rythme maternel. Est-ce que ça veut dire que vous avez un message à faire passer en ce domaine? Vous avez des conseils pour que, justement, les femmes puissent continuer à allaiter tout en travaillant, par exemple?
Bien sûr. Moi, j'ai un conseil à donner. D'abord, c'est sur le plan international. Et surtout, dans mon pays, c'est qu'il faut revoir le nombre de mois après l'accouchement. Les 2 mois qu'on donne aux femmes, ça ne suffit pas. Parce qu'elles sont obligées de laisser leur bébé, même quand on leur dit de tirer, de laisser dans le biberon. Pour des femmes qui gardent les enfants, ce n'est pas tout à fait réglé ni juste tout le temps. Parce que lorsque vous êtes au boulot, vous ne savez pas ce qui se passe à la maison.
Et c'est compliqué pour le conserver peut-être dans certains contextes. Mmh.
Ah, bien sûr, quand on dit à celle qui est à la maison, celle qu'on appelle communément les bonnes, elles ne respectent pas le plus souvent la température. Quand on leur dit de laisser au frigidaire, de sortir, de le réchauffer un peu, de le donner au bébé, ce n'est pas le plus souvent respecté.
Donc il y a des risques à ce moment-là de développement, y compris de développement bactérien. Donc il faut faire très attention à cela. On a bien compris ce message, Laurence Montero. Hein, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc sage-femme au Bénin et membre du conseil d'administration de la Confédération internationale des sages-femmes représentant l'Afrique francophone.
RFI à Cotonou, 90 FM.
On aborde la dernière partie de cette émission avec vous, Agnès Guyonnet. On le disait tout à l'heure, hein, en début d'émission, ces perceptions très différentes autour de l'allaitement, et c'est même dans certains cas un sujet de débat. Il y a des thèmes comme ça qu'il vaut mieux éviter d'aborder en famille, sinon les plats volent. Ça peut arriver hein, sur l'allaitement. On a d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi tant de passion, finalement, sur un acte aussi bénéfique et pacifique. Agnès Guyonnet, pourquoi est-ce qu'on peut se disputer sur l'allaitement ?
Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se disputer sur l'allaitement ? Parce que chacun va véhiculer en fait des messages différents au niveau de sa place dans la société. Et donc, on a entendu la place du travail, par exemple, dans la vie des femmes. On a entendu l'esthétique dans la vie des femmes. On a entendu sa place dans la sphère familiale. Et c'est sûr que l'allaitement a impacte en fait toutes ces choses-là. Moi, j'ai coutume de dire que plutôt que de parler uniquement d'allaitement, il faut peut-être aussi parler de la venue d'un bébé. Et que si déjà on essayait de comprendre ce qui se joue dans l'accueil d'un bébé, dans la famille, dans le couple, dans la famille, dans la société, et ce que c'est la vie d'une maman en fait qui va travailler et qui doit aussi gérer tout ce qui se passe à la maison, l'allaitement n'est qu'une infime partie de toutes ces problématiques-là.
Alors Karima Peroni, j'en suis certaine, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Ce que nous disons va vous faire réagir. Hein. Vous avez signé en compagnie de Christelle Nikil le livre « Mon allaitement comme je veux » publié aux éditions Le Duc. On le perçoit bien, geste naturel l'allaitement, mais beaucoup de questions et pas mal de débats. Karima Peroni, est-ce que vous avez justement, vous aussi, en préparant ce livre, entendu, recueilli ces fameuses querelles autour de l'allaitement? On a envie de dire, est-ce que c'est pas un petit peu un sujet d'hystérie qui dépasse justement la limite de ce sujet?
C'est vrai que l'hystérie, de toute façon, se situe autour de la femme et du corps de la femme, en fait, en général. Et ça, depuis la nuit des temps. Donc, l'image de la mère et de la maternité, c'est l'image d'une mère allaitante. Ça, en préambule du livre, je l'explique, et à travers l'histoire. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités, dans les éducations, et de tous les pays, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Donc, ça cristallise effectivement les émotions, les passions, ça déchaîne les passions en tout cas, et tout le monde a envie de s'accaparer ce corps de la femme en général. Et l'allaitement renvoie en fait aussi à une question de la part de l'intime, et en fait la femme se dit, finalement il y a une culpabilité autour de l'allaitement, c'est-à-dire qu'une femme qui n'arrive pas à allaiter ou qui n'allaite pas, est-elle une mère ? C'est ça la question en fait sous-jacente et qui pose problème et débat, surtout dans nos sociétés aujourd'hui où le débat est posé sur les réseaux sociaux, à travers des mouvements. Et la question de l'allaitement va même encore plus loin, puisqu'aujourd'hui on remet même en question le délai
du retour au travail.
Exactement, voilà, du retour au travail. Puisqu'en fait, effectivement, comme l'a rappelé la sage-femme, l'OMS préconise un allaitement long de 6 mois, enfin un allaitement tout simplement de 6 mois, et pour avoir un bébé en bonne santé en tout cas. Et en fait, se pose le problème en France, donc dans beaucoup de pays, en fait, du retour au travail dès 2 mois et demi, à peu près 3 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? On est avec cette culpabilité, ça veut dire qu'on doit être obligé d'arrêter d'allaiter ou bien on ne va pas travailler. Donc on doit sacrifier son rôle de mère ou son rôle de femme dans la société. Je pense que c'est toutes ces questions qui sont très fortes, qui vont beaucoup plus loin qu'un simple mamelon ou qu'une simple poitrine. C'est des questions qui sont très importantes qui sont liées tout simplement à l'indépendance et à l'autonomie de la femme dans la société.
Autonomie avec, on le disait tout à l'heure, pas mal de pression. Une de nos auditrices nous disait qu'il y avait les sœurs, la maman, tout le monde qui disait de toute façon il ne peut pas en être autrement. Vous, par rapport au témoignage que vous avez recueilli, Karima Peroni, vous avez l'impression que qui décide aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment la jeune accouchée ? Est-ce que c'est la société dans laquelle elle vit ? Et comment, par exemple, intervient le papa dans tout ça ? On a très peu parlé du père et pourtant, on ne peut pas dire qu'il ne compte pas dans cette affaire.
Alors, dans le livre, effectivement, Mon allaitement comme je le veux, on a totalement intégré la cellule familiale, qu'il s'agisse du papa ou même de la fratrie qui peut participer au projet d'allaitement, parce qu'il s'agit bien là d'un projet. Là aussi, on parle de projet puisqu'on doit le préparer aussi pour que tout se passe bien. On prépare physiquement, parce qu'il y a quand même une préparation, tout comme l'accouchement, et on le prépare aussi moralement. On prépare. Enfin, il y a aussi des choses, des questions existentielles à se poser. Et une organisation aussi, puisque l'allaitement, malheureusement, ne coule pas forcément de source tout le temps. C'est vrai que la question de l'allaitement, est-ce qu'il n'y a que la mère qui peut y répondre? On aimerait bien, puisque finalement, c'est notre corps, c'est le corps de la femme dont il est question. Mais en effet, il existe toujours des pressions, alors que les pressions soient... familiale, c'est-à-dire de transmission. On a beaucoup de mères qui se plaignent d'avoir la grand-mère qui n'avait pas allaité, parce que à l'époque, dans les années 70, c'était un signe d'aliénation, en fait, que d'allaiter, et qui comprennent pas pourquoi la jeune génération veut à tout prix allaiter, coûte que coûte, au détriment peut-être de certaines choses. Aujourd'hui, on peut être une femme allaitante et être une féministe, ça c'est aussi bon de le rappeler. Bon, tout comme on peut être une femme au foyer et défendre les droits des femmes au travail. Et effectivement, il faut absolument que le débat se recentre sur la femme, ses choix, sa liberté. Moi, je prône vraiment une liberté et un choix. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas pro-allaitement, comme je ne suis pas contre l'allaitement. Je prône le choix de la femme, un choix délibéré et éclairé, et donc informé. Et ça, c'est important aussi d'informer, donc les formations aussi dans les cliniques, le personnel qui peut aussi préparer les mamans à ce qu'elles vont vivre dans les mois à venir. C'est aussi très important, ces campagnes d'information. Pour qu'ensuite la maman puisse décider en son libre choix, sa libre conscience, et seule ce qui est bon pour elle et son bébé.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Karima Peroni. Je rappelle le titre de votre livre, Mon allaitement comme je veux, aux éditions Le Duc Pratique. Justement, on disait des espaces de mise en confiance, de transmission de la connaissance. C'est précisément ce qui est prévu lors des consultations avec vous, Agnès Guyonnet, avec des sages-femmes. Tout ça, c'est prévu dans le cadre de certains hôpitaux, de certaines maternités.
Alors, oui, normalement, la préparation à l'allaitement devrait être partie intégrante de la préparation qui se dit une préparation à la périnatalité, hein, maintenant. Maintenant, il faut avouer aussi que ça renvoie à la formation des professionnels et que, notamment en France, en tout cas, l'allaitement n'est pas une priorité dans la formation des différents professionnels. Un médecin qui peut avoir 7 à 15 ans d'études en fonction de s'il fait des spécialités ou pas, va disposer de quelques heures de formation sur l'allaitement maternel et pas vraiment sur sa pratique, mais plutôt sur les recommandations alimentaires, etc. Donc les sages-femmes, les puéricultrices, les infirmières devraient bénéficier de beaucoup plus de formation pour justement communiquer des choses réalistes aux patientes dont elles vont avoir la charge.
Il nous reste moins de 2 minutes. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on conclue. C'est sur le lactarium, le don de lait maternel. Justement, s'il fallait prouver les bienfaits de ce lait, hein, c'est ce lait qui est indispensable pour les prématurés.
C'est ça. S'il fallait le prouver, ça veut dire que tous les progrès de la prématurité ou pour effectivement prendre en charge les enfants les plus fragiles ne pourraient se faire sans une alimentation qui est exclusivement du lait maternel issu de dons, donc des mamans allaitantes qui donnent leur lait bénévolement. Nous, on le pasteurise, enfin au lactarium, ce lait est pasteurisé, puis redistribué, puisque ce lait, en fait, va être le seul que ces enfants les plus fragiles, les très grands prématurés vont pouvoir digérer dans un premier temps.
Comment est-ce que ça s'organise? Comment les femmes peuvent justement faire acte de don de leur propre lait?
Donc, il existe un lactarium par région. Donc, en fonction de son lieu d'habitation, on va contacter le lactarium de sa région et généralement, en fait, ce Grosso modo, en fait, on va demander aux mamans de respecter des normes d'hygiène quand même assez précises dans le recueil de leur lait, le stocker au congélateur chez elles, et c'est un collecteur du lactarium qui viendra chercher le lait à leur domicile. Juste en précision, ce lait, le don de lait obéit à la réglementation de n'importe quel don en France, donc le don du sang, le don d'organes, etc. Donc il y a un questionnaire médical, des prises de sang à faire pour être sûr qu'il n'y ait aucune contre-indication à ce don.
On l'a bien compris, sous haute surveillance. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé pour ces explications. Agnès Guyonnet, sage-femme spécialisée en allaitement maternel. L'activité physique, c'est bon pour la santé. On en parle tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Seine. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, docteur Seine, vous avez choisi de nous parler de l'intérêt de l'activité physique et sportive pour soulager les lombalgies. Alors, on commence par le commencement. Petite définition, c'est quoi au juste une lombalgie?
Une lombalgie, c'est assez simple, c'est une douleur qui est située dans le bas du dos. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'origines ou plein de lésions possibles pour pouvoir expliquer cette lombalgie. Toujours est-il que 70 à 85% des adultes souffrent ou ont souffert au moins une fois dans leur vie d'un épisode de lombalgie. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et cette douleur, il faut rajouter que cette douleur est quelquefois interprétée comme quelque chose d'extrêmement menaçant et quelquefois lié d'ailleurs au discours de médecins qui peuvent dire surtout ne bougez plus. Et cela, associé à une expérience douloureuse, fait qu'il y a une forme de catastrophisme qui peut s'opérer chez le patient, la personne qui souffre de lombalgie, et avec une idée d'éviter absolument cette douleur, une hypervigilance envers les activités physiques qui sont supposées augmenter la douleur. Du coup, la personne fait moins d'activités physiques. Et on sait malheureusement que cette absence d'activité physique, eh bien, affaiblit les muscles qui maintiennent le dos. Et qu'à l'inverse, le fait de faire régulièrement du sport, de l'activité physique, eh bien, c'est un excellent moyen de prévention justement des douleurs lombaires, que ce soit primaire, c'est-à-dire avant que la personne ait eu mal au dos, ou que ce soit secondaire lorsque ces douleurs sont apparues.
Donc on l'a compris, si on a mal au dos, on n'arrête pas de bouger. Mais alors Jean-Marc Seine, quels sont les sports à privilégier pour se soulager?
Il y en a beaucoup bien sûr, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avant tout bien s'échauffer et s'étirer après l'effort. Ça, ce sont des choses qui vont véritablement permettre d'avoir moins mal. Bien s'équiper, bien sûr, avoir des bonnes chaussures, avoir des vêtements amples. Ça, c'est, on va dire, les précautions à prendre. Et puis, ce qui est tout à fait montré, c'est que la marche est extrêmement bénéfique. La natation, par exemple, le fait de nager, le dos crawlé, c'est une bonne chose. Faire du vélo, pourquoi pas, de la danse, faire des exercices de gainage, tout cela va être absolument favorable pour diminuer les lombalgies.
Alors voilà pour ce qui est bien recommandé. Maintenant, du côté de ce qu'il faut mieux éviter, sport à éviter en cas de lombalgie, docteur Seine.
Alors, je vais donner une liste de sports, mais qu'il faut éviter surtout quand on connaît pas bien ce sport, quand on veut le débuter. Par exemple, les sports d'impact, comme le squash, la course à pied ou le trail, eh bien ça, on sait que ça peut favoriser ces douleurs lombaires parce qu'on va creuser le dos, le bas du dos, et ça, c'est pas une bonne chose. Les sports asymétriques, comme le golf, ou les sports à raquettes, le tennis, le ping-pong, si on n'est pas du tout habitué, là, on va effectuer des torsions au niveau du dos, et ça aussi, ça peut favoriser des douleurs. Et puis enfin, tout ce qui va tasser la colonne vertébrale, comme le trampoline, l'haltérophilie, la corde à sauter, ben ça aussi, ça peut favoriser des douleurs. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut être au quotidien le plus actif possible et qu'il faut plutôt privilégier des activités sportives d'abord qu'on connaît bien éventuellement et surtout qui procurent du plaisir.
Merci beaucoup, docteur Seine. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À très bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. Assez Toussamak et Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, vous avez la parole. Émission spéciale sexualité avec le docteur Catherine Solano. Comme sujet, demain, le sexe masculin. Tout un programme. Vos messages, notre page Facebook et bien sûr vos questions au 33 84 22 75 75. On se retrouve très nombreux et nombreuses demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.